Ce soir, j'aimerais vous partager une réflexion sur ce qu'est l'éveil. Quelqu'un a posé la question en entretien de groupe. Je trouve intéressant son partage. Parce qu'il disait, quand je suis pris dans mes pensées et puis que tout d'un coup j'en sors, est-ce que c'est l'éveil? En tout cas, c'était l'emprise de avijja, de l'aveuglement, et tout d'un coup, il y a la conscience qui est là. Et d'une certaine manière, c'est l'éveil. C'est une expérience d'éveil. Ça n'est pas l'éveil, ça n'est pas le nirvana du Bouddha, mais c'est une expérience d'éveil. Et cette expérience d'éveil, nous pouvons la vivre lorsque nous lâchons, lorsque notre cadre référentiel lâche. C'est pour ça qu'on aime beaucoup aller en vacances dans des endroits nouveaux, parce que l'œil est ouvert. Alors que quand on a l'habitude, nous ne regardons plus. Nous sommes dans une forme d'opacité mentale. Et cette conscience qui tout à coup s'éveille, on peut vraiment dire qu'il y a un avant, un après. Avant, je suis voilà, dans l'emprise, et puis tout à coup, waouh, c'est là. Et finalement, lorsque nous vivons une expérience du Sartori, c'est un peu pareil. Tout à coup, l'œil s'ouvre et nous voyons à 360 degrés. Et puis après, nous ne voyons plus. Et la pensée cherche, waouh, c'était quoi ça? Je me souviens une fois, j'avais ma voiture en panne et puis je prenais le train pour rentrer chez moi. Toujours le même train pendant une semaine ou deux. Et puis je lisais un bouquin, puis j'évaluais à peu près le temps, puis à un moment donné, ben, je levais les yeux pour sortir à la bonne gare. Puis un jour, je prends mon train, je lis mon bouquin, puis à un moment donné, je lève les yeux pour voir où j'étais, puis je regarde dehors, puis je ne reconnais rien. Et la première pensée qui est venue, c'est, comme on est égocentré, hein, ils ont changé le paysage. Puis après, je me suis dit, alors ça, c'est pas possible quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais je me suis rendu compte à quel point je savais ce que je devais voir. Je savais ce que je devais voir, donc je n'avais absolument pas l'œil ouvert. Puis au fait, je m'étais trompée de train, puis au lieu d'être près de Bavois, j'étais sur la côte. Mais c'est un peu l'expérience que décrivait Antonio quand tout à coup on sort de ses pensées et que « Waouh, je suis là !» Et ça pose la question de qu'est-ce qui crée le réel ou comment est-ce que nous créons le réel? Parce que nous ne pouvons pas toujours être dans cet œil nouveau. C'est plutôt rare. Nous avons tous nos moments où tout d'un coup ça fait « Ah !» Et le Bouddha a parlé de ces trois aspects nécessaires pour que l'expérience se crée. Il faut un organe des sens, par exemple les yeux ou les oreilles, un système nerveux, ou bien un cerveau et une sensibilité émotionnelle. Et il faut une expérience extérieure qui crée un contact. Et puis, il faut une conscience. Lorsque nous avons un cerveau, quelle est la conscience? quelque chose à quoi penser ou quelque chose qui nous fait ressentir est la conscience, alors le contact est possible. Et de là, toute l'expérience se construit. C'est une manière de voir qui est bénéfique parce que nous voyons comment c'est conditionné. Il suffit qu'un de ces aspects manque et puis il n'y a rien. Et quand je dis moi, c'est pas moi. C'est je peux dire moi à cause de tout ça. L'éveil, c'est une expérience qui est libre de ses aspects conditionnés. Quand tout d'un coup ça fait A, dans l'instant, il y a un non-cadre référentiel. Nous ne savons pas ce qui se passe. Et c'est ça que nous appelons l'au-delà ou le un ou la vérité ou l'illumination ou le nirvana ou la résurrection, puisque c'est Pâques. C'est ce moment. Et après, la conscience revient dans le corps et recrée ces liens qui font que nous nommons l'expérience. Ah, c'est ça, je sais. Dans le A, il y a juste la réceptivité pure, il y a l'attention pure. Et après, nous créons le monde. C'est ça. Et lorsque nous disons c'est ça, nous, par définition, nous limitons. Ça se limite. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nommer ce qui est tout. Nous ne pouvons pas nommer Dieu ou le nirvana. Au moment où nous le nommons, nous le limitons. Donc ça s'approche, mais ça ne peut pas être ça. Les paroles sont trop spécifiques pour pouvoir nommer quelque chose qui énergétiquement est aussi ouvert. Et la nature du moi, c'est de chercher sans cesse une référence. Nous avons besoin de chercher des cadres référentiels pour nous sécuriser, pour nous poser, pour pouvoir dire moi. C'est pour ça que chez les zen, il n'y a pas tellement d'enseignements, il y a ces questions, hein. Je pose simplement la question, qui suis-je ou qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que je fais là? Parce qu'au moment où nous posons la question, c'est au fond là où nous sommes le plus proche de ce ah. Après, ça retombe. Et c'est ok, mais c'est bon d'explorer pour savoir cette subjectivité. Du qui suis-je. Et lâcher un peu l'attachement à nos opinions, où nous croyons tout ci, tout ça, et encore en haut, et en bas, et à côté, et dessous. Le nom, d'une certaine manière, crée le réel. C'est le nom qui lie et qui crée le réel, mais en même temps, il enferme. Embêtant, hein? Mais c'est comme ça. C'est ok. Nous pouvons voir combien nous sommes limités par nos valeurs, notre cadre référentiel, notre manière de voir le monde. Le voir et le comprendre fait que nous arrêtons de prendre des vessies pour des lanternes. Nous sortons de l'aveuglement. Comme dit Ajahn Suchito, être dans le non-discernement et le savoir, c'est l'éveil. Et au fond, le moi n'est rien qu'un cadre référentiel qui va mourir. Et, je rajoute quand même quelque chose pour qu'on ne déprime pas trop, qui porte la conscience. Nous portons la conscience. C'est le corps humain qui porte la conscience. C'est pour ça qu'il est tellement précieux. Parce que nous pouvons connaître dans le sens noble du terme, dans le sens immédiat et sage. Et la conscience, c'est une goutte de vérité. À chaque fois que je suis présente, je me lie à l'infini, à l'universel, et à chaque fois que je lâche une goutte de conscience dans mon baquet, je dévoile ma nature essentielle. Et ça se fait à notre insu. Ça se fait parce que je prends le temps de m'asseoir et d'être là. C'est pour ça que c'est tellement essentiel de cultiver et de donner du temps à la conscience. Parce que la pleine conscience, c'est une naissance à la vie. Ce « ah » qui devient plus important que notre pseudo-sécurité. Ce que Milarepa appelle les joies de l'incertitude. Nous sommes intimement liés à l'impermanence. Ça n'est pas une idée, c'est une beauté. Alors nous pouvons aller en retraite, pratiquer régulièrement, se souvenir d'être là au quotidien, lire, écouter des enseignements, trouver un rituel. Quelquefois, certaines personnes, ça les aide beaucoup, des chants. Et tout ça, c'est un rappel. Nous pouvons mettre en place des rappels qui construisent ce lâcher prise. Ça n'est pas facile. C'est extrêmement simple, mais ça n'est pas facile parce que, au fond, nous sommes terriblement attachés à l'ignorance. Nous aimons beaucoup tout ce qui est impermanent. Nous sommes attachés à nos maisons, à nos habits, à nos enfants, à nos voitures, à nos amis, à notre confort. C'est incroyable combien nous sommes attachés à notre confort. Ça nous rend humbles. Nous appartenons à cette humanité limitée et pourtant nous avons cette intuition de cette appartenance plus large et plus profondément paisible, plus profondément pleine. Et c'est pas toujours ça que nous cherchons. C'est tellement agréable. de s'activer dans nos vies, de s'étendre au soleil, d'aller se prendre une tasse de thé. Tellement agréable. Et cet attachement demande un engagement pour que nous sortions de la confusion et que nous apprenions qu'il n'y a rien de meilleur que ce geste-là. C'est le meilleur des meilleurs. Et au fond, pourquoi est-ce que je satisfais toujours mes désirs? C'est parce que juste à la fin du désir, ça fait ça. Il n'y a plus de désir. Mais tout de suite après, il y en a nouveau. Alors, si nous pouvions faire une fois pour toutes ça, ce serait plus simple. Dans l'exercice de la méditation, il y a d'une part cette honnêteté de voir nos limites et nos cette appartenance à la nature humaine, et d'autre part de nous réjouir pleinement de tous les moments où nous sommes vraiment là. Parce que l'un comme l'autre construisent cette libération, cet éveil incarné qui n'est pas juste dans le A momentané. Mais c'est un chemin qui c'est le chemin du guerrier, parce que pour sortir de cette roue du samsara, ça demande beaucoup. Et nous croyons quelquefois que sortir de la roue du samsara, c'est ne plus y être. Mais ça n'est pas ainsi. C'est que nous y sommes, mais autrement. Je vous lis un petit bout d'un livre sur un Tibétain qui a écrit Le Bouddha rebelle. Les laïcs que nous sommes ont beaucoup plus d'occasions de se mesurer aux défis du monde réel que les ermites ou les religieux. Le temps que nous avons consacré, au début, à travailler sur notre propre esprit est une préparation à affronter ces épreuves et à mettre notre apprentissage mental en pratique dans la réalité. Par exemple, nous pouvons travailler sur nos émotions pendant la méditation. Nous nous asseyons tranquillement et nous invitons notre colère ou notre jalousie à venir pour l'étudier et travailler avec elle. Ce genre d'entraînement est extrêmement important, mais il ressemble un peu aux manœuvres que pratiquent les militaires. S'il nous fournit les techniques et les stratégies de base pour reconnaître nos émotions et travailler sur elles, nous sommes néanmoins encore dans une zone démilitarisée à l'abri du feu de l'ennemi. Nous ne risquons rien tant que nous restons dans notre petit cocon. Il nous faut finalement sortir de notre refuge pour mettre nos connaissances à l'épreuve et vérifier ce que nous avons appris. Nous devons pour cela braver les dangers de la colère réelle, de la jalousie et du désir véritable. Ne plus nous contenter d'être des apprentis, des cadets bouddhistes. C'est dans l'arène de notre propre vie que vous devenez un guerrier et que vous conquérez votre liberté. Donc l'éveil, c'est être là. Et c'est pas seulement être là, au moment où je suis là, c'est juste me dire, est-ce que j'étais là? Je n'ai pas besoin de répondre, je sais bien si j'y étais ou pas. Mais questionner, est-ce que je suis là? Je ne peux pas questionner sans y être. Et est-ce que j'étais là? Pour d'une certaine manière remettre la non-présence en présence. on avait dans l'entretien ce matin, l'entretien de groupe, il m'est revenu cette parole de Saint Paul que je dis souvent beaucoup et que j'aime dire parce que j'aime qu'il y ait des corrélations entre les différentes traditions. Et Saint Paul dit, tu peux, dans le premier épître aux Corinthiens, tu peux tout dévoiler en l'exposant à la lumière. Et ce qui est ainsi dévoilé devient lui-même lumière. C'est exactement la manière de traiter Mara. Nous exposons l'énergie négative à la lumière de la conscience et c'est ce qui lui permet de lâcher. L'autre aspect de l'éveil qui est beau à mentionner, c'est ce que les Tibétains appellent la bodhicitta, ou l'esprit de compassion, l'esprit de service, qui fait que nous n'avons plus besoin de renaître dans ce monde, mais que nous choisissons d'y venir pour aider les autres. Et j'aimerais savoir comment vous vivez la dernière partie du Metta Sutta, celui qui a le cœur pur, qui voit la vérité ultime des choses et qui s'est libéré de tous les désirs sensoriels, sans se laisser piéger par des croyances erronées, ni être attaché à ses opinions, celui-là ne reprendra plus jamais naissance dans ce monde. Qu'est-ce que ça vous fait? Je ne reprendrai plus jamais naissance dans ce monde. Ça vous fait quoi? Vous êtes content?
Dommage.
Ben si, un peu, oui.
Ouais.
Oui.
C'est comme dit le chat, c'est comme dit le chat. Quand on est mort, c'est génial parce qu'on ne sera plus jamais triste, mais c'est triste parce qu'on ne sera plus jamais content. L'idée, pas seulement dans le bouddhisme, mais chez les grands mystiques chrétiens aussi, c'est que nous sommes incarnés sur cette terre uniquement parce qu'il y a de l'inaccompli à l'intérieur de nous-mêmes. Et que le seul but de la naissance humaine, c'est cette transformation intérieure où nous retrouvons nos origines. Et dans cet esprit de compassion au service des autres, la bodhicitta ou le vœu du bodhisattva. Le bodhisattva n'a plus besoin de revenir dans ce monde parce que sa générosité est incarnée totalement et il n'a plus rien à purifier. Mais il choisit de le faire parce que ce cœur de compassion est ouvert. Et il y a cet élan pour permettre à chacun de nous d'être libéré. Et c'est vrai que c'est une belle manière de concevoir la vie. Parce que toute la souffrance du monde vient de cette tension d'inquiétude liée à la survie du moi. Survie affective, matérielle, spirituelle. Et l'éveil, c'est aussi tout cet élan de la nature humaine vers l'amour et la compassion. Et lorsque nous sentons, bien sûr, nous sommes dans un monde karmique, où nous avons des proximités avec certaines personnes, et nous n'avons pas besoin d'aimer tout le monde, mais nous pouvons cultiver la conscience que chacun est précieux et qu'au-delà de ces liens privilégiés, nous nous adressons à tous nos frères et sœurs humains. Moi, je sais que des fois, par rapport à mes petits-enfants, je me dis, mais comment je peux donner autant à cette équipe-là et puis pas aux autres? Que si je souffrais autant parce qu'il y a des petits-enfants au Soudan qui meurent de malnutrition que quand mes petits-enfants se font mal, eh bien, le monde irait drôlement mieux, d'une certaine manière. Alors, ce que je fais, c'est que je le fais pour ces enfants-là. Mais dans mon cœur, à travers ces enfants-là, c'est tous les autres que j'accompagne aussi. En tout cas, dans mon intention et dans mon élan. Juste parce qu'autrement, c'est douloureux. Ces limites sont douloureuses. Et le service, c'est une notion à cultiver parce que ça fait partie de l'éveil. Et c'est un peu dommage parce que souvent, enfin c'est pas dommage, mais c'est à voir combien le moi souvent oublie ça et il veut viser haut. Haut dans le sens de ses compétences, ses acquisitions, ses réussites, et même son charisme. Facebook, j'ai beaucoup d'amis. Et quand le moi a comme ça envie d'être quelque chose, d'être grand, d'être beau, il ne voit pas à quel point il l'est déjà quand il lâche tout ça. Je me souviens, on a tellement d'idées fausses sur ce qu'est un chemin spirituel, ce qu'est le nirvana. Et puis une fois je parlais avec Ajahn Suchito il y a longtemps, j'avais tous ces espoirs d'être heureuse, je sais pas quoi. Et puis il me disait, ben ouais, ma foi, tu sais, c'est pas vraiment comme ça. Finalement, la seule chose qui a une valeur, c'est tout simple, c'est d'être là et puis d'être au service. Et puis on s'est regardé, puis on s'est dit, bon. Bon, alors ça sert à quoi de faire tout ça? Construire ces monastères, faire des retraites, faire des... Puis il m'a dit, ben, il n'y a rien d'autre à faire. Nous avons peur de mourir, mais comme a dit Ajahn Sumedho, nous sommes déjà morts de peur, de toute façon. C'est le Bouddha qui dit « Un grand homme n'est pas un homme illustre avec de merveilleuses compétences et beaucoup de charisme. C'est un homme qui se connaît lui-même. » Et puis, lorsque nous pratiquons avec les trois aspects du chemin dont j'ai parlé hier, l'éthique, nous tentons de faire le bien, d'éviter de faire le mal, sans culpabilité, mais simplement avec sagesse, parce que nous connaissons la loi du karma. Nous cultivons la pleine conscience et la concentration. Et puis nous enrichissons notre intelligence pour orienter le chemin dans la bonne direction. Alors l'éveil devient sagesse. Et la sagesse, c'est une unification entre le mental, le corps et la sensibilité et la conscience. Et c'est très frappant de voir comment, si je me souviens, il y a longtemps, je suis vraiment vieille, toutes les discussions qu'on pouvait avoir sur Shunyata. Qu'est-ce que c'est que le rien, la vacuité. Lorsque nous pratiquons et que nous vérifions, que nous expérimentons certaines choses, le mental s'unifie, fait sens avec l'expérience. Et on pourrait dire que la sagesse, c'est lorsque le corps est détendu, que le cœur est paisible, que le mental est clair et que la conscience est stable. Bien sûr, lorsque nous doutons, ça peut paraître très clair. Je dois choisir entre ça et ça, et si je choisis ça, ce sera bon. Ça paraît très clair. Mais c'est une clarté partielle. La clarté de la sagesse est une clarté qui sait mettre la pensée à sa place, qui sait dukkha, qui ne cherche pas la perfection du monde, qui est en accord avec l'impermanence. La pensée est un bon serviteur, elle suit au fond l'élan créateur, ça n'est pas elle qui crée. Et alors nos cadres de référence nous aident à la libération plutôt qu'ils nous fassent tourner dans le samsara. Et dans les questions perpétuelles du pourquoi, et si seulement, et peut-être que. Et avec la sagesse, nous pouvons nous aider nous-mêmes, mais aussi aider l'autre, parce que nous ne laissons plus l'autre nous faire du mal. Je suis responsable d'une certaine manière du mal que l'autre me fait. Parce que je n'ai pas suffisamment de vertical intérieur ou de connaissance de la nature humaine pour savoir que c'est l'aveuglement qui le fait mal agir et pour comprendre qu'en réagissant, je crée la mauvaise action pour lui. Alors qu'en lâchant, lorsque la flèche arrive, il n'a pas de mauvais karma. Notre mauvais karma est aussi, créé par la réaction de l'autre. Si j'injurie quelqu'un puis que ça ne lui fait rien du tout, voilà, on en reste là. Donc il y a une responsabilité à notre réactivité. Et ça, c'est quelque chose d'assez subtil à comprendre, qui est très beau. Hmm. le Bouddha dit, c'est pire de répondre à la haine par la haine que de haïr en premier. Celui qui sait ne pas répondre à la haine par la haine se sauve lui-même et sauve aussi autrui. Donc, nous avons une boîte à outils qui devient disponible avec plusieurs moyens habiles, ce que le Bouddha appelle des moyens habiles, pour créer dans l'instant quelque chose qui ne soit pas souffrance. Et c'est intéressant de voir comment tout va bien et puis tout à coup, il y a du jus. Et de juste voir ça, cette impermanence. Tout va bien, il se passe quelque chose, et c'est comme si on appelait Anne. Et puis au lieu que le corps soit détendu, tout d'un coup il est tout mobilisé, inquiet, qu'est-ce qu'il y a ? Le cœur vit des émotions, le mental devient complexe, et puis la conscience est très souvent... fluctuante. Je peux être là, mais après, je suis prise. Donc, la contemplation de la conscience, simplement voir dans la journée, est-ce que je suis là ou est-ce que je ne suis pas là ? C'est bon, ça suffit. Là, pas là. Là, pas là. Et voir quand cette conscience, tout d'un coup, s'atrophie. C'est extrêmement fatigant de partir dans la tête lorsque l'expérience devient juteuse. Je dis juteuse parce que c'est pas seulement quand c'est négatif. Nous oublions la conscience tout autant quand c'est positif. C'est pour ça que nous sommes fatigués et que nous devons dormir. C'est pour nous reposer de ce trop-plein qui est tout le temps là. Lorsque nous faisons une retraite, à un moment donné, il n'y a plus besoin de dormir du tout. Parce que l'esprit est en repos. Après, on s'habitue, puis ça revient. C'est toujours pareil. C'est pour ça que, d'une certaine manière, nous commençons un chemin ici. On va faire tout le chemin pour arriver où ? Eh bien, ici. Je vous lis une petite parole. Il y a une grande différence entre chercher la volupté de la souffrance, comme dans nos journaux, et accepter la souffrance. La première attitude n'est qu'un masochisme morbide, et la seconde est en fait une saine acceptation de la vie. Nous n'avons pas non plus à rechercher la souffrance, mais là où elle s'impose à nous, nous ne devons pas l'esquiver. Or, elle s'impose à nous à chaque pas que nous faisons. Et pourtant, la vie est belle. Et puis, ça, je ne sais pas qui c'est qui disait, si tu rencontres le triomphe et le désastre et que tu traites ces deux imposteurs de la même manière, tu auras découvert le secret. Donc, avec tout ce travail où Nous savons prendre refuge, nous savons reconnaître dukkha, la souffrance, l'impermanence, le non-moi. Nous connaissons les obstacles, nous savons reconnaître quand il y a bonne concentration ou intérêt ou équanimité. Nous connaissons la compassion, la joie, l'impermanence, le sens du moi perd de sa puissance. Nous devenons plus simples. Il y a moins d'enjeux. Si l'autre m'énerve, je ne vais pas prétendre, mais je n'y crois pas. Ah ouais, ça m'énerve. C'est tout. C'est comme un nuage qui passe. Et alors, toute cette complexité du monde paraît de moins en moins vraie, et en paraissant de moins en moins vraie, nous en sommes de plus en plus libres. Et Mara va venir encore et encore, et nous allons simplement dire « Je te vois, Mara, tout va bien. » Et alors, nous vivrons plus dans la vérité des choses, cet éternel présent, plutôt que dans la pensée qui construit. Peu à peu, parce que nous savons prendre le bon outil pour illuminer l'expérience, Mara, elle se lasse, ou il se lasse. Il y a un très joli passage dans un des suttas où Mara dit « Pendant 7 ans, j'ai poursuivi et tenté le Bouddha partout où il allait, mais il ne m'a laissé aucune chance. Je suis comme une corneille qui plonge sur une pierre qui ressemble à un morceau de gras et qui se détourne désappointée. Moi aussi, je suis écœurée et dégoûtée. Je renonce au Bouddha. » Mara va nous lâcher et elle va être remplacée par cette bonne nourriture du Dharma. Nous nous ouvrons à l'espace, au silence, à la présence des autres. Nous savons être seuls. Et parce que nous savons être seuls, nous savons aussi de mieux en mieux accueillir l'autre. Nous sommes entrés en amitié avec nous-mêmes. Et un esprit qui est cultivé de cette manière, si nous le faisons à notre manière, chacun a sa manière et c'est la meilleure, un esprit cultivé de cette façon va naturellement vers la lumière. Et nous retrouvons notre source. Nous savons où aller boire. Au lieu de rester dans cette avidité épuisante, liée à trop d'importance au monde, nous avons un autre endroit où aller boire. Et nous nous rendons compte combien chacun d'entre nous est précieux et combien il n'est pas important. Nous ne sommes pas importants. Ça fait du bien. Je ne suis pas indispensable. Mais je suis précieuse. Avec cette qualité d'éveil qui est en chacun de nous. Je vais finir avec une histoire. C'est la tradition d'une tribu. Je crois que c'est les les Ndebele, ou je sais pas, une tribu africaine, Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, tout le monde sait tellement combien le Bouddha est en nous. On ne parle pas de Bouddha, mais c'est pareil. Ils mettent la personne au milieu du village, et puis toutes les personnes qui viennent lui disent une qualité. Pendant 2 jours. Chaque fois que quelqu'un passe, il lui dit une qualité. Parce que l'idée, c'est qu'il a oublié. Il a oublié qu'il avait tout ça en lui. Et de cette manière, il retrouve quelque chose de sain.
Je vous propose que nous prenions quelques minutes en silence.